Regardez, vous êtes en place, Sébastien.
Je suis
alors
là.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Ils ne veulent pas que l'État vende les aéroports parisiens, alors ils se tiennent par la main. PC, PS Insoumis et LR réunis pour soutenir le référendum d'initiative partagée. Plus de 4,5 millions de signatures à trouver en 9 mois pour le valider, c'est 17 000 par jour en moyenne. Nous sommes à ce meeting inédit dès le début du journal. Le test du cannabis thérapeutique se rapproche peut-être. Certains médecins devraient pouvoir le prescrire d'après les experts de l'Agence du médicament. L'expérimentation est prévue au début de l'an prochain. Au sommaire également ce soir, jugement le 18 octobre au procès Balkany. Son avocat s'en prend au procureur. Les Nations Unies qui pointent du doigt le prince héritier saoudien dans la mort de Jamal Khashoggi. La retraite internationale du rugbyman Mathieu Bastaro. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, on va parler de ce service national universel. Son installation s'est faite avant la généralisation, mais à quoi veut-on que ça serve? Quel bagage dans les pactages de ces jeunes gens de 16 ans? Est-ce que, effectivement, parce que c'est le but, vous avez le sentiment que ça aidera à la cohésion nationale, à la fraternité? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. Ils ont en commun de ne pas vouloir de la privatisation d'ADP et ils sont donc tous ensemble sur la même estrade ce soir à Saint-Denis. Des communistes, des insoumis, des républicains, des socialistes, tous opposés à la vente d'aéroports de Paris et donc tous mobilisés pour le RIP, le référendum d'initiative partagée. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert début mai à la consultation. Il faut donc maintenant réunir 4 700 000 signatures en 9 mois. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
D'où ce meeting pas banal auquel vous assistez.
Et oui, ça ne s'invente pas, la conférence de presse a eu lieu, Sal Krasuki, illustre dirigeant de la CGT du siècle passé. Stéphane Peu, le député communiste, joue à domicile, il ne sait plus où donner de la tête.
J'ai tous mes collègues, ouais, parce que là il y a Boris Vallot, il y a François Cornu-Gentil, il y a Valérie Rabault.
Fais pas tomber le char avec les journalistes, Stéphane Peu, s'il te plaît.
Alors on croise aussi le sénateur et ancien ministre de François Hollande, Patrick Kanner, et la voix qu'on entendait, c'est Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui est arrivé bras-dessous avec le député de droite LR, François Cornu-Gentil.
Non, c'est pas étonnant. L'union des gaullistes et des communistes, comme en 45, qui a permis de... Qui a permis de créer Aéroport de Paris le 24 octobre 45, et je raconterai cette histoire-là.
Et on n'est pas dans la nostalgie, hein. Je crois qu'au contraire, un certain libéralisme, c'est plutôt ça qui est ringard. C'est les idées modernes des années 90, des années 2000.
Voilà, chacun des participants aura 10 minutes pour exposer son opposition à la privatisation. Quant aux difficultés rencontrées pour donner son soutien sur le site du ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner s'est engagé à faire quelques amendements. Pour l'heure, on se croirait quand même un petit peu sur feu le Minitel.
Laurence Perron en direct de Saint-Denis avec Stéphane Beaufils. Merci à tous les deux. Et commentaire du porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu. C'est le retour du système UMPS, ce rendez-vous de Saint-Denis. La rengaine a tout de même un peu vieilli.
La France fait un pas de plus vers le cannabis thérapeutique.
Le comité d'experts de l'Agence du médicament a remis ses conclusions à propos du test grandeur nature envisagé début 2020 et d'après ce projet cadre. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir.
Certains médecins spécialistes et volontaires devraient pouvoir prescrire du cannabis thérapeutique.
Oui, des médecins volontaires et formés spécifiquement. L'usage du cannabis a été retenu pour 5 indications. Les douleurs associées aux nerfs et qui résistent au traitement, les épilepsies sévères, les effets secondaires en cancérologie comme les nausées, les soins palliatifs et les troubles musculaires liés à la sclérose en plaques en particulier. Alors beaucoup de patients sont concernés par ces pathologies, des dizaines de milliers sans doute, mais il y aura finalement peu d'élus jusqu'à 3000 patients seulement pour cette expérimentation. Sachez-le, il ne sera pas question de fumer ce cannabis médical. Il sera administré sous d'autres formes, plus conventionnelles on va dire, pour un effet rapide ou prolongé selon les cas. Nicolas Autier préside le comité d'experts.
Pour traiter les accès douloureux paroxystiques, ce sera des formes rapides qui pourront être vaporisées. Il y a aussi des formes rapides qui peuvent être des gouttes administrées par voie sublinguale. Et puis il y aura des formes pour un effet plus durable, des formes par voie orale, des comprimés, des capsules contenant de l'huile qui permettent d'avoir un effet moins rapide mais qui durent plus dans le temps et qui sont là plutôt des traitements de fond, des phénomènes douloureux.
Le cannabis étant considéré comme un stupéfiant, les ordonnances seront particulièrement sécurisées. L'expérimentation, si elle se confirme, devra durer 2 ans. On jugera ensuite s'il est pertinent ou pas de généraliser cet usage médical comme l'ont déjà fait pas mal de pays déjà, comme Israël ou le Canada. En France, les fédérations de patients applaudissent cette avancée. La fin loin d'un tabou, disent-elles. Elles regrettent cependant que certaines pathologies, comme les migraines résistantes, ne soient pas concernées par l'expérimentation. D'après le comité d'experts, un traitement au cannabis coûte entre 10 et 15 euros par jour.
Et il y a encore du chemin avant ce test. Merci Véronique Julia, puisque les 13 experts de la NSM présentent leur projet mercredi prochain aux professionnels de santé et aux associations de patients avant de donner leur avis définitif. Et ce sera ensuite à l'Agence du médicament et à son ministère de tutelle, celui d'Agnès Buzyn, de donner son aval. On sait déjà que la ministre de la Santé y est favorable. Dans une tribune publiée dans l'Obs aujourd'hui, plus de 70 personnalités appellent par ailleurs à légaliser le cannabis à des fins thérapeutiques comme récréatives. Au nom du pragmatisme, disent-ils, notamment Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, anciens têtes de liste aux européennes. Eux ne font pas dans la thérapie ou la récréation, quoique les enseignants qui sont interrogés comme tous les 5 ans dans toute l'OCDE, 260 000 profs de 48 pays, où l'on découvre que les enseignants français Alexis Morel sont moins formés qu'ailleurs à gérer les élèves perturbateurs.
Pour 7 professeurs sur 10 en France, l'enseignement est leur premier choix de carrière. C'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Pas de problème de motivation donc, mais plutôt de formation. C'est dans ce domaine que notre pays se distingue plutôt négativement. Seuls 55% de nos enseignants ont reçu une formation à la gestion de classe et au comportement des élèves, contre 72% pour l'ensemble des pays occidentaux. Alors faut-il y voir un lien de cause à effet? Les profs de l'Hexagone passent plus de temps que les autres au maintien de l'ordre dans leur classe et sont plus nombreux à signaler des problèmes de discipline. Plus globalement, ils se disent moins formés que leurs collègues d'autres pays à la pédagogie et à la mise en pratique concrète de leur matière. 66% le sont en France contre 86% au Royaume-Uni, par exemple. C'est aussi ici que le taux de formation continue tout au long de la carrière est le plus faible des pays riches. Ces constats ne devraient pas tomber dans l'oreille d'un sourd au moment où le ministre Blanquer lance une réforme de cette formation.
Autre domaine où là aussi les comportements doivent être constatés et gérés rapidement, Internet. Les députés examinaient en commission le projet de loi de la majorité sur la haine en ligne et ils viennent de le durcir encore un peu. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Les contenus manifestement illicites devront être retirés en 24 heures.
Et à l'origine, ce projet de loi visait les incitations à la haine ou les injures liées au sexe, à la religion, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle ou le handicap. Mais les députés ont élargi le champ des contenus que les plateformes et les moteurs de recherche devront donc supprimer dans un délai de 24 heures après leur signalement, comme l'apologie du terrorisme, l'apologie des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Sont également concernées les injures proférées en raison du genre pour lutter contre la transphobie, sans oublier le harcèlement sexuel sur Internet. Certains, comme le député MoDem Erwan Balanant, voulaient aller plus loin en intégrant au texte le harcèlement moral et scolaire.
C'est le début de la haine. Le harcèlement scolaire, c'est la haine dans la cour de récréation qui donne aux enfants et qui donne à la société les mauvaises habitudes. Donc je pense que c'est la racine du mal en réalité.
Une idée finalement rejetée par Laetitia Avia, la rapporteure du projet de loi.
Le harcèlement scolaire, c'est pas un délit, c'est pas une infraction autonome dans le code pénal. Et le harcèlement moral nécessite vraiment une répétition, une multiplicité. Comment est-ce que on peut avoir un harcèlement moral manifestement illicite signalé sur une plateforme? On est sur des sujets qui nécessitent d'enlever toute dose d'interprétation et d'être vraiment dans de l'application.
Alors c'est le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui sera chargé de superviser cette lutte contre les contenus haineux. En cas de manquement, les plateformes en ligne pourront être sanctionnées avec une amende pouvant atteindre 4% de leur chiffre d'affaires mondial.
Yann Gallic, merci. En voilà un autre de domaines où les lignes blanches sont souvent franchies. La route et nos pratiques au volant, si la vitesse et l'alcool baissent, nous sommes de plus en plus au téléphone depuis 15 ans. C'est même devenu un fléau pour l'assureur AXA qui vient de faire une étude sur le sujet. 7 Français sur 10 disent l'utiliser en conduisant. Alors il faut appliquer la loi, demande Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière.
Il y a une législation concernant le téléphone au volant. Faute de contrôle, elle n'est pas appliquée. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait une massification des contrôles pour une pratique éminemment dangereuse, car il n'est pas question qu'une personne meure sur la route ou qu'une personne vive avec un handicap lourd pour le restant de son existence, tout simplement parce que quelqu'un avait priorisé une conversation avec un ami. Une étude de l'INSERB nous avait appris il y a quelques années que dans un accident corporel sur 10, il y avait la présence du téléphone. Bien évidemment, les chiffres ont augmenté car cette pratique s'est installée et tout un chacun considère finalement qu'il ne prend aucun risque en téléphonant. C'est le contraire, bien évidemment. Donc, il faut qu'il y ait une massification des contrôles, car ce n'est pas avec ces 10 PV par jour et par département qu'un comportement aussi dangereux sera totalement éradiqué sur nos routes.
Chantal Perrichon avec Delphine Evenou. Un appel au volant, c'est 3 fois plus de risque d'avoir un accident. Un SMS lu 23 fois plus.
Il est 19h10 sur France Inter. Sébastien, il sera le premier ancien président jugé pour corruption sous la 5e République.
Nicolas Sarkozy n'a plus de recours dans l'affaire des écoutes. La Cour de cassation a rejeté le dernier et il sera donc jugé en correctionnel dans les prochains mois avec son avocat Thierry Herzog pour corruption et trafic d'influence. L'ancien chef de l'État, alias Paul Bismuth, est soupçonné d'avoir cherché à obtenir des infos de Gilbert Azibert sur l'affaire Bettencourt en échange d'un coup de pouce pour sa nomination à Monaco. Lui aussi est accusé de corruption passive et de blanchiment de fraude fiscale. Le maire de Levallois, ami de Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany. Le procès est terminé. La parole était à son avocat cet après-midi, Charlotte Piret. Éric Dupond-Moretti s'en est pris aux procureurs qui ont requis 7 ans de prison ferme contre son client.
Mon discours est désespéré parce qu'il est lucide. Dans la salle comblée moite, Éric Dupond-Moretti est le dernier à prendre la parole pour la défense de Patrick Balkany. Tous ou presque ont plaidé la relaxe avant lui, mais cette fois la tâche est âprement plus difficile. Alors plutôt que de se risquer dans les méandres du dossier, le ténor s'agrippe aux grands principes, égratigne en vrac la presse, collaborateurs zélés du parquet, la foule qui vient en nombre voir le roi par terre, l'époque qui n'est plus celle d'une fraude fiscale communément tolérée, et puis bien sûr les procureurs du parquet national financier.
J'ai âprement critiqué ce réquisitoire dans lequel on ne parle que de morale publique. J'ai rappelé également que le parquet ne rapportait pas la preuve de ce que l'argent était de l'argent public. Il n'a pas tapé dans les caisses de l'État, Patrick Balkany. Personne ne lui en fait le reproche. Non, mais c'est ce qui circule dans les rues. C'est ce qui circule au Café du Commerce.
Avant lui, maître Antoine V s'est attelé au fond de l'affaire, rappelant que les Balkany disposaient d'un patrimoine familial colossal, que certes, il a fait de la fraude fiscale et du blanchiment, mais pas dans les proportions évoquées, et tentant, si possible, d'éviter à son client de partir en prison dès le jugement prononcé. Il conclut « Je vais vous demander de juger avec mesure, parce que la juste mesure est la seule qui convienne à la justice. »
Charlotte Piret presque sans voix à la fin de ce procès depuis le palais de justice de Paris. Le jugement a été mis en délibéré au 18 octobre. L'économie avec Sanofi qui annonce un nouveau plan de départ volontaire. 466 postes supprimés en France et en Allemagne dans la recherche et développement. Près de 300 dans l'Hexagone sur 4000 dans cette branche française. Le marché des spiritueux se porte toujours bien, même si les ventes ont reculé en France l'an dernier à cause du début du mouvement des gilets jaunes avant les fêtes. Petite baisse dans l'Hexagone donc. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Mais les alcools français s'exportent toujours aussi bien.
Eh bien vous imaginez, le cognac par exemple, 98% de notre production part chaque année aux quatre coins du monde. Et globalement, pour tous les spiritueux, les exportations ont encore augmenté de 2% en 2018. Et c'est bien simple, sans les vins et spiritueux, rappelle Jean-Pierre Cointreau, le trésorier de la Fédération française des spiritueux, la balance commerciale agroalimentaire française serait déficitaire.
L'exportation est le poumon de l'activité des vins et spiritueux français. Ça fait profiter à la fois les producteurs des différents fruits de France et les fabricants de spiritueux et également l'État français, puisque sur une bouteille à 40 degrés vendue à 15 euros, vous avez 78% de taxes.
En revanche, le marché français est bousculé. Changement d'habitude, les produits vedettes, whisky et boissons anisées sont en baisse. Changement de génération, les moins de 35 ans sont moins friands de spiritueux. Et puis, cite aussi le président de la Fédération, Michel Guéraud, il y a eu depuis la loi alimentation et les gilets jaunes en fin d'année dernière.
La période, ce qu'on appelle de fin d'année, qui est octobre, novembre, décembre, est une période conséquente. Ça représente à peu près 35% de nos ventes et on a été quand même donc handicapés. Sans oublier, bien sûr, la loi Egalim, qui a aussi un impact sur le prix de vente de nos produits et mécaniquement sur la demande de consommation.
Ouais, car la hausse du seuil de revente à perte a fait en moyenne grimper les prix de 5% et baisser d'autant les volumes vendus.
Manuel Ruffez.
L'enquête sur la mort de Jamal Khashoggi remonte jusqu'au prince héritier Mohamed Ben Salman.
C'est la conclusion de l'experte des droits de l'homme des Nations Unies qui dit avoir des preuves crédibles de l'implication du prince saoudien dans l'assassinat du journaliste. C'était en octobre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Elle demande au secrétaire général de l'ONU d'ouvrir une enquête sur plusieurs hauts responsables de Riyad. À Genève pour Inter, Jérémy Lanche.
6 mois d'enquête n'auront pas modifié ce qui semblait déjà être la piste principale de la rapporteure spéciale. Elle qui affirmait au début de l'année que le meurtre de Jamal Khashoggi avait été planifié par des représentants de Riyad. Cette fois, elle estime avoir réuni suffisamment de preuves contre de hauts responsables saoudiens, dont le prince héritier. Elle demande que l'ONU impose des sanctions contre Mohamed Ben Salman.
Si on considère les preuves pour l'ouverture d'une enquête pénale internationale concernant le prince héritier, il est logique pour moi de demander qu'il soit inclus dans la liste des personnes soumises à des sanctions. À moins que des preuves contraires soient apportées pour prouver que le prince héritier n'était pas impliqué ou n'était pas au courant du meurtre de Jamal Khashoggi.
Le nom du prince héritier est partout dans le rapport de son 15 pages, mais Agnès Callamard met en garde contre l'importance disproportionnée, dit-elle, accordée à l'identification du seul auteur du crime. La suite, c'est peut-être l'ouverture d'une enquête pénale internationale, si elle voit le jour, car il y a peu de chances que le Conseil de sécurité, divisé sur la question, l'autorise. Elle viendrait plutôt d'une décision du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, une solution que semble prôner Agnès Callamard dans son rapport. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et pour le numéro 2 de la diplomatie saoudienne, le rapport de l'experte de l'ONU est sans fondement. Ils ne sont plus que 4 encore en lice pour succéder à Theresa May, à la tête des conservateurs britanniques et donc au poste de Premier ministre, dont Boris Johnson, qui accroît encore son avance. Les enquêteurs internationaux donnent 4 noms dans l'explosion du vol MH17, abattu en 2014 au-dessus de l'Ukraine. 4 hauts gradés des séparatistes de l'Est du pays, dont l'un de leurs chefs les plus connus. Kiev appelle la Russie à reconnaître sa responsabilité. Moscou dénonce des accusations gratuite pour la discréditer. 283 personnes se trouvaient dans le vol de la Malaisie. En Espagne, le nombre de naissances poursuit sa tendance à la baisse, Marie-Hélène Ballestero, une chute de 40% en 10 ans.
Les statistiques publiées aujourd'hui par l'INE, l'INSEE espagnol, sont sans appel. Le nombre de naissances est passé de plus de 500 000 en 2008 à moins de 370 000 en 2018, soit une baisse de 40% qui serait due notamment à la diminution du nombre d'enfants par femme en Espagne. En effet, le taux de fécondité est tombé à 1,25 en 2018. Il s'agit du niveau le plus bas dans ce pays depuis 2002, mais aussi de l'un des taux de fécondité les plus bas d'Europe. Par ailleurs, l'âge moyen de la maternité ne cesse de reculer en Espagne. Il est désormais de 32 ans et 2 mois, ce qui est assez tard aussi par rapport aux autres pays européens. Et ce n'est pas tout, car depuis 2015, le pays présente un accroissement négatif, c'est-à-dire que le nombre de décès est supérieur à celui des naissances. Mais pourquoi l'Espagne ne fait presque plus de bébés? Eh bien, d'après une étude publiée récemment par l'Université autonome de Barcelone, une émancipation tardive liée à des problèmes de logement et à des emplois précaires seraient les facteurs clé. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Il n'était pas hier dans la liste de Jacques Brunel pour la Coupe du Monde de rugby au Japon cet automne. Alors il met un terme à sa carrière internationale aujourd'hui. Mathieu Bastaro, 30 ans, 54 sélections en bleu, 3 comme capitaine. Représenter mon pays a été ma plus grande fierté, écrit le Toulonnais sur les réseaux sociaux. Bastaro, Jérôme Val, évidemment déçu.
On imagine combien la blessure a été grande pour Mathieu Bastaro. Ne pas être appelé pour ce mondial au Japon, un pays et une culture qu'il affectionne tant, ne pas avoir été prévenu un peu avant l'annonce alors qu'il a été promu vice-capitaine des Bleus ces derniers mois. La méthode et le contenu l'ont forcément déçu. Lui, le joueur au physique atypique pour un trois quarts centre, 120 kilos, mais à la personnalité si fragile. Bastaro Quête, son surnom, ne laisse personne indifférent sur le terrain où il a ses défenseurs et ses détracteurs. Comme il le rappelle dans son message, depuis sa première sélection en bleu il y a 10 ans, la route n'a pas toujours été facile, à l'image de ce dérapage en Nouvelle-Zélande en 2009, la fameuse affaire de la table de nuit et sa blessure au visage qui a provoqué un grave incident diplomatique et une tentative de suicide pour le Guadeloupéen. Une seule chose ne fait pas débat chez lui, son attachement à l'équipe de France et son implication dans le vestiaire. Le natif de Créteil en région parisienne va relever un nouveau défi. Il jouera la saison prochaine à New York.
Et puis décidément tout ce qui concerne Vincent Van Gogh, ça l'arrache alors que le peintre n'a jamais vendu un tableau de son vivant. Le revolver qu'il aurait utilisé pour mettre fin à ses jours est parti aux enchères pour 162 500 euros aujourd'hui à Drouot. C'est plus du double de la fourchette haute de l'estimation. L'arme a été retrouvée en 1960 dans le champ à Auvers-sur-Oise où Van Gogh l'a utilisée. C'était le 27 juillet 1890. Van Gogh avait 37 ans.
Eh ben, dites-moi, beaucoup. On s'est remis depuis.
Depuis, on s'est remis, on regarde ces tableaux.
Allez, Sébastien Pagon, merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci de passer la soirée avec nous. Le téléphone sonne, c'est juste après ça.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Et Sébastien Léas, toujours des risques d'averses orageuses jusqu'à demain.
Ah oui, on va garder un temps capricieux et parfois chaotique avec plusieurs vagues d'averses et d'orages qui vont glisser sur le pays entre ce soir, cette nuit et demain. Ce temps instable concernera surtout les régions allant des Pyrénées au Massif Central et à Rhône-Alpes jusqu'en Franche-Comté et en Alsace. On peut quand même s'attendre à des périodes d'accalmie, notamment demain matin, mais le risque orageux sera plus marqué l'après-midi, en particulier en montagne. Sur le quart nord-ouest, les averses qui sont encore assez actives en ce moment vont s'estomper en cours de nuit, mais de nouvelles pluies localement orageuses vont arriver en deuxième partie de nuit au nord de la Seine. En revanche, une amélioration est attendue pour demain avec des éclaircies de plus en plus belles, gagnant même jusqu'au bassin parisien et au nord de la Nouvelle-Aquitaine demain après-midi. Et puis la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse auront aussi une belle journée demain avec un soleil largement prédominant.
Et sinon, baisse des températures.
Oui, on va globalement retrouver des valeurs de saison. Demain, on attend 24 degrés à Mulhouse, Cognac et Agen, 23 degrés pour Nevers et pour Nancy, 22 degrés à Paris et au Mans, 20 degrés à Lille et à Rouen et 18 degrés à Brest et à Cherbourg. Il fera quand même encore chaud sur le quart sud Sud-Est avec par exemple 28 degrés à Grenoble, Montpellier et Calvi et 31 degrés pour Marseille et pour Nîmes.
Sébastien Léas de Météo France. Merci Sébastien.